En 1852, Ernest Renan publie Averroès et l'Averroïsme. Cette volumineuse thèse est le second volet d'un triptyque dont le premier volet est le De Philosophia Peripatetica apud Syros, paru la même année, où Renan explore la partie syriaque de ce que l'on appelle aujourd'hui, et appelait au Moyen-Âge, la translatio studii, c'est-à-dire le transfert des études d'Orient en Occident. Et le troisième et dernier volet est, beaucoup plus tard, la conférence sur l'islamisme et la science, publiée dans le Journal des débats le 30 mars 1883. Pourquoi l'auteur de l'histoire des origines du christianisme rédige-t-il une thèse sur Ibn Rushd, Averroès, philosophe, médecin de cour, cadi de la grande mosquée de Cordoue, mort à Marrakech en 1198 de l'ère chrétienne? Et qui plus est, pourquoi écrit-il une thèse sur l'averroïsme qui, comme il l'a montré lui-même remarquablement, n'a guère existé que dans le monde latin et dans le monde hébraïque, et pas dans le monde arabo-musulman? Pour tenter de répondre à cette question, qui a toutes les apparences d'une énigme, il faut considérer attentivement quelques dates et quelques faits. Soit donc l'année 1847, c'est celle de deux publications, qui, jointes ensemble, seraient assez proches du noyau de la future thèse de doctorat. La première publication est l'article Ibn Rushd du Dictionnaire des sciences philosophiques, publié par une société de professeurs et de savants sous la direction d'Adolphe Franck. C'est l'œuvre de Salomon Munch qui le reprendra, cet article, sous une forme plus développée dans ses mélanges de philosophie juive et arabe en 1859. Renan a rendu hommage à Munch dans la seconde édition d'Averroès et l'Averroïsme, paru en 1862. Il l'utilise d'ailleurs abondamment, une cinquantaine de fois, contre une quinzaine seulement, par exemple, pour l'histoire de la philosophie scolastique de Barthélemy Oréo. Le second document est le texte d'une conférence publiée en 1847 dans le tome 21 de l'Histoire littéraire de la France par Victor Leclerc, sous le titre « Siget de Brabant, professeur aux écoles de la rue du Fouarre ». Les deux textes de Munch et de Leclerc n'ont pas du tout la même visée. L'historien de Siget de Brabant apporte un témoignage nouveau, capital à l'historiographie non pas de l'averroïsme, mais de Dante Alighieri, mettant un terme, comme le dit à l'époque Leroux de Lincy, aux tortures des commentateurs de Dante. On sait en effet à présent, grâce à lui, qui était ce Sigier, qui, lisant en la rue au feu, en sa vie, syllogisait discours dont on lui porte envie, comme le dit le chant 10 du Paradis. Et l'on a enfin accès à une description succincte, cinq lignes, mais instructive, de deux de ses œuvres authentiques, les Quaestiones de Anima Intellectiva et les Impossibilia. Renan connaît l'existence de ce dernier texte, « Les Impossibles », et le mentionne brièvement dans une note d'Averroès et l'Averroïsme. Il ne va pas y voir davantage, c'est que la description des Impossibilia par Leclerc ne l'y incite guère. « Triste jeu d'école, logique infernale, paradoxe ». Leclerc et Renan, qui en 1862 signeront ensemble les deux volumes de l'histoire littéraire de la France au XIVe siècle, Leclerc rédigeant le discours sur l'état des lettres, Renan le discours sur l'état des beaux-arts, ont en commun de ne point trop aimer la logique scolastique. J'y reviendrai. Plus important est le lien qui, à travers Salomon Munch, rattache notre auteur au dictionnaire des sciences philosophiques d'Adolphe Franck. Le projet du dictionnaire rejoint en partie les préoccupations de Renan, qui, en 1848, rédige « L'avenir de la science ». Il faudrait pouvoir lire ici l'intégralité de la préface de la première édition du dictionnaire, publiée en 1844. On y trouverait un éloge de la raison et un diagnostic sur l'époque que Renan a peut-être médité et qu'il a en tout cas partagé. Il suffit de quelques lignes pour saisir la parenté. Je cite « Il y a aujourd'hui en France des hommes qui ont entrepris une croisade régulière contre la philosophie et contre la raison, qui regardent comme des actes de rébellion ou de folie toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour pour constituer une science philosophique indépendante de l'autorité religieuse, et qui pensent que le temps est venu de rentrer enfin dans l'ordre, c'est-à-dire que la philosophie, que les sciences en général, si elles tiennent absolument à l'existence, doivent redevenir, comme autrefois, un simple appendice de la théologie. » C'est contre ces hommes que le dictionnaire se dresse. Travaillant à l'avenir de la science, Renan se voit les mêmes adversaires. Professant que l'histoire de la philosophie et la philosophie elle-même ne sont que deux faces diverses d'une seule et même science, cherchant de ce fait, en les éclairant l'une par l'autre, à les réunir dans des résultats communs, le dictionnaire accueille le texte de Munch sur Ibn Rushd. En 1848, Renan abandonne la publication de l'avenir de la science et entame la rédaction de sa thèse sur Averroès. Le parallèle saute aux yeux, reste à l'interroger. Revenons à notre énigme, comprendre pourquoi, ou au moins comment, l'auteur de l'histoire des origines du christianisme a pu rédiger une thèse sur Averroès et l'avéroïsme. À ce stade de la réflexion, la question a changé. Elle est devenue « qu'est-ce qui, en 1848, dans l'esprit de Renan, peut bien lier ces trois ?» Histoire des religions, scolastique et incrédulité. On dira, voilà un mot nouveau, incrédulité. Où le prenez-vous ? Dans l'avenir de la science, précisément. L'avenir de la science, par le livre, la chose, c'est le présent des mœurs et de la raison. L'incrédulité est là, aucune réaction n'y fera rien. Vous avez pu chasser Voltaire de votre bibliothèque. Vous ne le chasserez pas de votre souvenir, écrit Renan, car Voltaire, c'est vous-même. Mais l'incrédulité est ancienne, plus ancienne que Voltaire, beaucoup plus ancienne. Elle est étroitement liée à la scolastique, elle est contemporaine du second âge de la religion. Je cite toujours l'avenir de la science, dans le premier âge. La religion n'a pas besoin de symboles. Elle est un esprit nouveau, un feu qui va sans cesse dévorant devant lui. Elle est libre et sans limite. Puis, quand l'enthousiasme est tombé, quand la force originale et native s'est éteinte, on commence à définir, à combiner, à spéculer ce que les premiers croyants avaient embrassé de foi et d'amour. Ce jour-là naît la scolastique et ce jour-là est posé le premier germe de l'incrédulité. Scolastique et incrédulité vont de pair. Étrange découverte, terrible et piquante intuition, tout se joue là, me semble-t-il. À cette découverte, il faut une science capable de faire face, une science capable de décrypter, d'analyser, de comprendre le donné. C'est, on voudrait dire par définition, celle qui a manqué au Moyen-Âge. Elle a nom philologie. L'avenir de la science, le livre, a la singulière caractéristique de contenir deux thèses qui, de prime abord, paraissent s'opposer, mais qui, pour le lecteur de l'ouvrage de 1852, Averroès et l'avéroïsme, s'articulent étroitement et donnent cet objet improbable qu'on appelle l'avéroïsme latin. Il s'agit de deux éloges. Le premier éloge est celui de la philologie. Le second éloge est celui du contresens. L'absence de philologie est le marqueur du Moyen-Âge. Les médiévaux ont beaucoup lu, travaillé, écrit. Il leur a manqué le grec, l'instrument nécessaire pour connaître l'Antiquité dans sa vérité. D'où l'éloge de Pétrarque, en qui l'esprit philologique fait sa première apparition. Pétrarque, qui du seul fait qu'il possède un manuscrit d'Homère en langue originale qu'il adore sans le comprendre, a deviné l'Antiquité et comprend par son âme ce dont la lettre lui échappe, Pétrarque doit être regardé comme le fondateur de l'esprit moderne en critique et en littérature. La philologie, voilà ce qui nous distingue des scolastiques. Je cite « Que manqua-t-il à ces laborieux travailleurs qui consacrèrent tant de veilles à la grande étude ?» Il leur manqua ce qu'eut la Renaissance, la philologie. Si, au lieu de consumer leur vie sur de barbares traductions et des travaux de seconde main, les commentateurs scolastiques eussent appris le grec et lu dans leurs textes Aristote, Platon, Alexandre d'Aphrodisias, le XVe siècle n'eût pas vu le combat de deux Aristotes. L'un resté solitaire et oublié dans ses pages originales, l'autre créé artificiellement par des déviations successives et insensibles du texte primitif. Fin de citation. Le constat est implacable. N'allons pas pour autant le réserver au Moyen-Âge. La philologie constitue aussi une des supériorités que les modernes peuvent à bon droit revendiquer sur les anciens, écrit Renan. La philologie, en tout cas, l'emporte sur la philosophie. Elle l'emporte même sur la psychologie. La psychologie, que ce soit celle de la vieille philosophie avec ses niaiseries scolastiques, c'est Renan qui parle, ou la psychologie écossaise, qui, tout en les évitant, se tient encore beaucoup trop au point de vue de l'être et pas assez au point de vue du devenir, la psychologie n'est pas la science de l'esprit humain. Le dernier mot appartient ici à l'histoire. La science de l'esprit humain, c'est l'histoire de l'esprit humain. Examiner ce que l'esprit humain était avant la culture philologique, ce qu'il est devenu depuis qu'il l'a subi, quel changement la connaissance critique de l'Antiquité a introduit dans la manière de voir des modernes, voilà la tâche de l'historien selon Renan. On ne s'étonne pas, dans ces conditions, de voir Renan reprendre mot à mot dans Averroès et l'Averroïsme un éloge du devenir primitivement rédigé pour l'avenir et la science. Le grand progrès de la réflexion moderne a été de substituer la catégorie du devenir à la catégorie de l'être, la conception du relatif à la conception de l'absolu, le mouvement à l'immobilité. Autrefois, tout était considéré comme étant. On parlait de droit, de religion, de politique, de poésie, d'une façon absolue. Maintenant, tout est considéré comme en voie de se faire. Averroès et l'Averroïsme, page 7, l'avenir de la science, page 229. En voie de se faire, retenons cette formule. Mais pourquoi Averroès? Pourquoi l'Averroïsme? Parce que c'est là que s'est construite la première grande figure de l'incrédulité. Voilà qui nous mène au second emprunt d'Averroès et l'Averroïsme, le livre « À l'avenir de la science », l'éloge du contresens. Ce que Renan cherchait dans sa thèse, c'est l'incrédulité. Il a cru la trouver chez Averroès, puis chez les Averroïstes. Il ne l'y trouve pas, mais il la trouve ailleurs, comme un fantôme ou un fantasme brandi par leurs adversaires successifs et récupéré, parfois activement, comme une image au miroir, par les Averroïstes eux-mêmes. Averroïsme et anti-averroïsme sont les deux faces d'une même médaille, les deux aspects, antagonistes et étroitement solidaires, que revêt à partir du XIIIe siècle un même phénomène déjà multiséculaire, la réception grecque, syriaque, arabe, juive et désormais latine d'Aristote. Voilà ce que découvre l'auteur du De Philosophia Peripatetica apud Syros. D'où la phrase célèbre qui ouvre la conclusion d'Averroès et l'Averroïsme. L'histoire de l'Averroïsme n'est à proprement parler que l'histoire d'un vaste contresens. Les ressorts de ce contresens nous en sont familiers et ils sont soigneusement et subtilement tendus par l'auteur. Je cite. Interprète très libre de la doctrine péripatétique, Averroès se voit interpréter à son tour d'une façon plus libre encore. D'altération en altération, la philosophie du lycée se réduit à ceci. Négation du surnaturel, des miracles, des anges, des démons, de l'intervention divine, Explication des religions et des croyances morales par l'imposture. Certes, ni Aristote ni Averroès ne pensaient guère qu'à cela se réduirait un jour leur doctrine. Mais dans les hommes élevés à la dignité de symbole, il faut toujours distinguer la vie personnelle et la vie d'outre-tombe, ce qu'ils furent en réalité et ce que l'opinion en a fait. Fort bien, dira-t-on. Renan distingue l'Averroès authentique, celui qu'il appelle le Boès arabe, de l'Averroès de légende, celui que Pétrarque appelle le chien enragé. Certes, mais la conclusion qu'il tire de ces avatars, il l'avait déjà tout entière formulée dans L'avenir de la science, en 1848. Seule différence, le corpus. Ici, les livres sacrés, là, Aristote et Ibn Rushd. L'avenir de la science affirme « Telle est l'activité de l'intelligence humaine que c'est la forcer à délirer que de la renfermer dans un cercle trop étroit. La liberté de penser est imprescriptible. Si vous barrez à l'homme les vastes horizons, il s'en vengera par la subtilité. Si vous lui imposez un texte, il y échappera par le contresens. » Le thème du délire forcé n'est pas neuf. On le trouve largement esquissé dans le paragraphe 23 de Moisson, qui est un des premiers cahiers de jeunesse correspondant à l'année 1845. La stratégie du contresens, elle, est développée quasiment dans les mêmes termes dans L'avenir de la science et dans Averroès et l'Averroïsme. Le contresens, aux époques d'autorité, est la revanche que prend l'esprit humain sur la chaîne qu'on lui impose. C'est la protestation contre le texte. Ce texte est infaillible, à la bonne heure, mais il est diversement interprétable. Diversement interprétable. Et là, recommence la diversité simulacre de liberté dont on se contente à défaut d'autres. Sous le régime d'Aristote comme sous celui de la Bible, on a pu penser presque aussi librement que de nos jours. Mais à la condition de prouver que telle pensée était réellement dans Aristote ou dans la Bible, ce qui ne faisait jamais grande difficulté. Le sourire est là. Le contresens, alors ça c'est l'avenir de la science. Page 124. Le contresens aux époques d'autorité est comme la revanche que prend l'esprit humain contre l'infaillibilité du texte officiel. L'homme n'abdique sa liberté sur un point que pour la regagner sur un autre. Il faut trouver 1000 fuites, 1000 subtilités pour échapper à la chaîne qu'on s'est soi-même imposée. On distingue, on commente, on ajoute, on explique, et c'est ainsi que sous le poids des deux plus grandes autorités qui aient régné sur la pensée, la Bible et Aristote, l'esprit s'est encore trouvé libre. Averroès et l'Averroïsme, page 433-434, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation de la Bible et d'Aristote. L'apologie du contresens libérateur, de la liberté contre la lettre, se fait en d'autres pages explication des subtilités de la théologie et des équivoques de la philosophie médiévale. Renan distingue bien théologie et philosophie. D'un côté, la subtilité, de l'autre, l'équivoque. C'est un beau programme. Mais pourquoi a-t-on tant équivoqué au Moyen-Âge? C'est qu'Aristote était là. Pourquoi la théologie est-elle d'un bout à l'autre une longue subtilité? C'est que l'autorité y est toujours présente. On la coudoie sans cesse, on sent à chaque instant sa gênante pression. C'est une lutte perpétuelle de la liberté et du texte divin. Le jet d'eau, laissé libre, s'élève en ligne droite, gêné, comprimé, il biaise, il gauchit. De même, l'esprit laissé libre s'exerce normalement, comprimé, il subtilise. Averroès et l'Averroïsme est un livre gigogne qui additionne ou emboîte plusieurs questionnaires et déploie en conséquence plusieurs chaînes narratives. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler une généalogie de la critique, une généalogie du rationalisme, une généalogie de l'esprit moderne, inaugurée dans l'avenir de la science avec Pétrarque. Averroès et l'Averroïsme confirment Pétrarque dans le rôle de héros tutélaire, mais en faisant de lui désormais la figure de proue de la lutte contre ce que Renan appelle l'arabisme. Dès ce moment, on comprend que l'avéroïsme va assumer deux rôles contradictoires dans la geste des fortunes et infortunes de la raison. Il sera la voie vers les vastes horizons et l'obstacle qui les éloigne. Dans le récit ronanien, tissé de fils disparates, l'avéroïsme a un aspect positif. Il représente, il personnifie l'incrédulité. Et un négatif, il contrarie et retarde l'avènement de la vraie science, seule capable de briser les chaînes du dogme. En somme, comme la scolastique elle-même, il a deux visages. L'incrédulité existe au XIIIe siècle chez les latins. Comment argumenter pareille thèse ? En appliquant un principe que l'on pourrait appeler le principe de Renan. Il est formulé comme prémisse mineure dans un raisonnement qui, à mes yeux, articule la fallacie historique fondamentale d'Averroès et l'avéroïsme. Voici le principe, de Renan. Toute condamnation dans l'histoire ecclésiastique suppose une erreur professée. Et voici le raisonnement. Première prémisse, le 6 décembre 1270, Étienne Tempier, évêque de Paris, ayant rassemblé le conseil des maîtres en théologie, condamne de concert avec eux 13 propositions qui sont presque toutes les axiomes familiers de l'avéroïsme. Suit une liste de 7 propositions sur 13. Deuxième prémisse, toute condamnation dans l'histoire ecclésiastique suppose une erreur professée. Conclusion, je cite, « Il faut donc penser que, vers le milieu du XIIIe siècle, la foi de plusieurs fut ébranlée dans l'Université de Paris et que les scandaleuses propositions de l'avéroïsme trouvèrent de l'écho chez quelques maîtres. » Le raisonnement laisse rêveur. À en croire Renan, il y a des axiomes de l'avéroïsme. Ils sont condamnés par le magistère. Leur condamnation prouve qu'on les a professés. Il y a donc eu, au XIIIe siècle, des avéroïstes. Il faut l'avouer, les 7 propositions retenues par Renan ont l'allure d'un manifeste. Il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes. Le monde est éternel. Il n'y a jamais eu de premier homme. L'âme, qui est la forme de l'homme en tant qu'homme, périt en même temps que le corps. Dieu ne connaît pas les singuliers. Les actions de l'homme ne sont pas régies par la providence divine. Dieu ne peut conférer l'immortalité ou l'incorruptibilité à une réalité mortelle ou corporelle. Nous ne voyons plus cependant les mesures épiscopales de 1270 et de 1277, seconde condamnation due au même évêque, qui étend et généralise la première, comme Renan les voyait. Pour lui, qui ne dispose d'aucun texte avéroïste, en 1852, aucun texte avéroïque n'est disponible. Les condamnations révèlent l'avéroïsme. L'avéroïsme qu'elles révèlent a le visage de l'incrédulité, et ce visage, c'est celui de l'arabisme. Nous, qui disposons des textes, avons appris à dissocier les deux, l'arabisme et l'avéroïsme, dans l'espace, dans le temps, dans le concept. Cela étant, qu'il ait ou non cédé sur tel ou tel point à la fallacie historique ne serait pas une raison pour rejeter l'ensemble du travail de Renan. D'abord, parce qu'il a au minimum et précisément fait apparaître l'importance d'une enquête et d'une réflexion sur la censure, sur les interventions du magistère, sur les diverses formes de limitation de la liberté intellectuelle au Moyen-Âge. Il a ainsi ouvert la voie à un ensemble de recherches qui ont bouleversé la vision de l'université médiévale, donc de la scolastique. Ensuite, parce qu'il a bien marqué la différence entre le XIIIe siècle et la période ultérieure. Les documents abondent en effet à partir des années 1300, ils s'accumulent jusqu'au début du XVIIe siècle. Averroès et l'avéroïsme, le livre, y puise abondamment et directement. C'est là que reste le second visage de l'avéroïsme, l'aspect négatif. Il est aussi important, voire plus important que le premier, qui, je vous le rappelle, était donc la personnification de l'incrédulité. Toujours la même ambivalence, il y a deux façons d'en appeler au Moyen-Âge, à la scolastique et plus encore à l'avéroïsme. On peut y voir le germe d'une pensée authentiquement libre, on peut y voir son principal obstacle. En 1862, dans l'avertissement de la deuxième édition d'Averroès et l'Averroïsme, Renan revient sur ce qui constitue à ses yeux le noyau dur de sa thèse. Répondant à Heinrich Ritter, il réaffirme qu'aucun grand parti dogmatique n'a présidé à la création de la philosophie arabe. Je cite, « Les Arabes ne firent qu'adopter l'ensemble de l'encyclopédie grecque telle que le monde entier l'avait acceptée vers le 7e et le 8e siècle. La science grecque jouait à cette époque chez les Syriens, les Nabatéens, les Araniens, les Perses sassanides, un rôle fort analogue à celui que la science européenne joue en Orient depuis un demi-siècle. Quand les Arabes s'initièrent à cet ordre d'études, ils reçurent Aristote comme le maître autorisé, ils ne le choisirent pas. » La formule mérite l'attention. Elle figurait 10 ans plus tôt pour les chrétiens syriaques et par voie de conséquence pour les Arabes dans le De Philosophia Peripatetica apud Suros. Syriens, Arabes, chez ces héritiers de l'école d'Alexandrie, personne n'a choisi Aristote. Arabes et suri, Aristotelem in illa scholarum graecorum frequentia, non elegerunt, sed acceperunt. Deuxièmement, Renan concède une certaine originalité et une supériorité à la philosophie arabe jusqu'à la fin du XIIe siècle, ce qui l'amène à réévaluer la pensée d'Averroès, supériorité drastiquement limitée toutefois par la théologie. Troisièmement, il ne revient pas en revanche sur le diagnostic absolument négatif posé dès 1852 sur l'avéroïsme latin du XIVe au XVIe siècle, autrement dit sur l'avéroïsme italien et l'école qui l'incarne dans toute sa douteuse splendeur. Alors, j'allais dire quelque chose, j'aurais envie de dire, après avoir écouté M. Jacques Bouveresse, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Mais non, on est en Italie et il s'agit de l'école de Padoue. L'école de Padoue est la cible de la première édition d'Averroès et l'Averroïsme. Elle le reste dans la deuxième. La quête de l'incrédulité a ses limites. Si l'on ne craignait pas l'anachronisme, on dirait que Renan voit à Padoue la duplex veritas devenir double langage. L'école de Padoue, en fait l'école de tout le nord-est de l'Italie, Bologne et Venise comprises, a tous les défauts de la scolastique. D'Italie, où il a voyagé durant qu'il préparait sa thèse, Renan a rapporté l'amour de Florence et le mépris de Padoue, cette ville schizoïde, à la fois quartier latin de Venise, la formule est de lui, et ville du Santo, Saint-Antoine de Padoue. Averroès et l'Averroïsme y fait pleuvoir. Il fait pleuvoir des reproches qui n'ont rien de touristique. L'Averroïsme padouan, c'est l'école de la routine, du verbiage et du faux-semblant. Je cite, « La philosophie de Padoue, c'est Padoue elle-même ». Comparée aux cités toscanes, une ville médiocre et sans génie. La philosophie padouane est, je cite, « une philosophie de paresseux qui prouve, avis à tous les ministères passés et futurs, que l'on ne devrait jamais enseigner la philosophie comme une discipline distincte. » Je cite, « En révisant le jugement que j'avais porté de l'école de Padoue, je n'ai pu trouver que j'eusse été trop sévère. À part quelques individualités distinguées, l'école philosophique de Padoue n'est qu'une prolongation au cœur des temps modernes de la scolastique dégénérée. Loin qu'elle ait servi au progrès de la science, elle y a nui en maintenant outre mesure le règne de vieux auteurs arriérés. L'avéroïsme padouan est en somme une philosophie de paresseux. On ne peut citer une preuve plus frappante du danger qu'offre dans un établissement scientifique l'enseignement de la philosophie comme d'une science distincte. Un tel enseignement finit toujours par tomber en proie à la routine et devenir funeste au progrès de la science positive. N'est-il pas remarquable, en effet, que ce n'est pas de la docte Padoue, mais de la poétique et légère Florence qu'est sortie la grande distinction scientifique, celle de Galilée ? Pourquoi s'en prendre si vigoureusement à Padoue ? Alors maintenant, j'ai une réponse à la question que je n'avais pas tout à l'heure. Pourquoi s'en prendre si vigoureusement à Padoue ? Il y a naturellement la faiblesse des hommes, la médiocrité des caractères, la pusillanimité, l'âpreté au gain, la routine personnelle, le carriérisme. En quelques portraits au vitriol, Renan a tôt fait d'expédier ses professionnels de la pensée, ses, je cite, « chevaliers d'industrie littéraires italiens » et leur pratique de la philosophie. Mais les faiblesses individuelles ne sont rien auprès du problème de fond. La philosophie padoane est une philosophie d'enseignant. Ce n'est pas une philosophie vivante, chevillée, si l'on ose dire, à la science en voie de se faire. La formule fera Florès. Je cite, « L'école de Padoue est une école de professeurs. Il n'en reste que des leçons. Et les leçons, à cette époque, ne savaient pas encore devenir des livres. Aussi, cette école n'a-t-elle rien laissé qui supporte la lecture ou puisse être de quelque valeur dans l'état actuel de l'esprit humain. Une école de professeurs peut rendre à la science de grands services, mais non représenter dans sa complexité l'ensemble de la nature humaine. » La philosophie padoane, le pire de la scolastique, est-elle morte ? Non, elle n'est pas morte. C'est ce qui fait, je crois, la source de l'intérêt paradoxal que Renan porte à l'avéroïsme. Ce qu'il appelle l'étrange ténacité de la routine, qui veut qu'un enseignement barbare, inintelligible, devenu ridicule, se prolonge un siècle encore au milieu de l'Italie lettrée et de l'esprit moderne déjà triomphant, page 401 d'Averroès et de l'avéroïsme, cette ténacité de la routine si étrange, voilà ce qu'il a à en dire pour nous. Il n'est pas exact d'envisager la scolastique comme finissant au XVe ou au XVIe, ni même au XVIIe siècle. Ne vit-on pas un ordre célèbre faire à Descartes la plus vive opposition au nom d'Aristote, j'entends de l'Aristote des écoles, c'est-à-dire des cahiers, que les générations de professeurs se transmettaient de main en main. Il serait facile de montrer que la scolastique se continue encore de nos jours dans plus d'un enseignement. Ce que la scolastique pérennisée pérennise à son tour est un divorce natif et fatal entre métaphysique et science. Je cite, « Une logique et une métaphysique abstraite, croyant pouvoir se passer de la science, deviennent fatalement un obstacle au progrès de l'esprit humain, surtout quand une corporation se recrutant elle-même y trouve sa raison d'être et les érige en enseignement traditionnel. » La fin de l'avéroïsme nous révèle les vrais enjeux. La modernité n'a jamais été et ne sera jamais avéroïste. L'avéroïsme n'a pas aboli la scolastique, il l'a sinon fossilisée, du moins reproduite et transmise à l'état fossile. L'avéroïsme a résisté à tout. Il a été renforcé par tout. Il a fallu la science moderne pour en venir à bout. Quant à l'interprétation avéroïste d'Aristote, c'est l'humanisme qui nous en a délivré. Mais aussi le péripatétisme helléniste et critique. Notons la formule. L'aristotélisme helléniste, rêvé par Pétrarque, cherchant Aristote dans son texte et dans les commentateurs grecs, sortit enfin vainqueur, cet aristotélisme, de l'aristotélisme arabe, cherchant Aristote dans Averroès. Pour Renan, le monde bascule quand le 4 avril 1497, c'est précis, Nicolas Leonicus Tomeus, Niccolo Leonico Tomeo, monte dans la chaire de Padoue pour enseigner Aristote en grec. À partir du texte grec. Une chaîne se brise, qui tenait Aristote prisonnier du commentateur Averroès et le commentateur lui-même prisonnier des cahiers scolaires de Padoue et d'ailleurs. C'est pour ainsi dire un changement de paradigme. La Grèce authentique, la Grèce, je cite, des philologues, des hellénistes, des platoniciens, des hippocratistes, chasse enfin la Grèce falsifiée, pédantesque, qu'on trouvait chez les maîtres arabes, avec sa scolastique hérissée, ses catégories décharnées, son jargon sauvage. Mais le phénomène est complexe, et l'avéroïsme, je l'ai dit, a deux visages. Renan les contemple, ces deux visages, en superposition, en se penchant sur le mourant. L'ambivalence de l'avéroïsme en lui-même et dans le projet intellectuel de Renan, qui, à sa manière, simultanément le prolonge et le contredit, se révèle dans la double signification que revêt l'agonie puis la mort de l'avéroïsme. L'extinction de l'avéroïsme peut être envisagée, en effet, de deux points de vue. Je cite. Si cette extinction fut, d'un côté, le triomphe de la méthode rationnelle et scientifique, avec la vraie science, elle fut, par un autre côté, la victoire de l'orthodoxie religieuse. L'avéroïsme padouan, insignifiant comme philosophie, acquiert un véritable intérêt historique quand on l'envisage comme ayant servi de prétexte à l'indépendance de la pensée. Cette contradiction apparente, dit Renan, n'a rien qui doive surprendre. N'a-t-on pas vu le jansénisme, la plus étroite de toutes les sectes, représenter à sa manière la cause de la liberté ? Si Padoue était le quartier latin de Venise, Venise, dit Renan, était en quelque sorte la Hollande de l'Italie. La liberté de penser y était exploitée comme une branche de commerce très productive. Tous les livres protestants venaient de là. Le libertinage d'opinion, qui donne une physionomie si originale au nord-est de l'Italie durant le XVIe siècle, disparaît avec le péripatétisme arabe dans la première moitié du XVIIe. Les deux disparaissent en même temps. Toute l'activité intellectuelle s'éteint d'un coup. Venise, qui a couvert le monde de ses livres, Venise n'a plus un éditeur et les Aldes sont réduits, pour ne pas faire banqueroute, à imprimer des bréviaires. Tout se tient, les Juntes, autres éditeurs vénitiens célèbres, ont édité Averroès et la fin de l'avéroïsme est à la fois la fin de l'arabisme et de la Hollande, de l'Italie. Je conclus, Averroès et l'avéroïsme n'est pas un livre de philosophie. C'est partiellement un livre d'histoire de la philosophie, c'est avant tout, c'est surtout un livre d'histoire. Comme le dit le sous-titre, c'est un essai historique. Ou si l'on préfère, le sous-titre du De Philosophia Peripatetica apud Syros, une Commentatio Historica. En témoigne la place accordée à l'analyse iconographique qui lui fait mettre en parallèle les textes de Gilles de Rome, de Raymond Lull, de Dean Scott, de Nicolas Emmerich et les peintures d'Orcagna, de Traini, de Gaddi, et pour cela mener une véritable enquête sur les représentations d'Averroès dans la peinture italienne, essentiellement les écoles de Pise et de Florence et leur diffusion ultérieure. Enquête in situ, on sait par le journal de voyage en Italie l'impression produite par le Cappellone degli Spagnoli sur le jeune Thésard, on est en 1849, qui écrit « Je n'ai compris saint Thomas d'Aquin qu'à Santa Maria Novella ». Que faut-il attendre d'un livre d'histoire quand il s'agit de philosophie ? Ce qu'on peut demander au passé, à savoir lui-même, selon la célèbre formule de l'avertissement, il ne faut demander au passé que le passé. L'histoire de la philosophie ne peut fournir de résultats positifs et immédiatement applicables aux besoins de notre temps. L'intérêt de l'histoire philosophique réside moins peut-être dans les enseignements positifs qu'on en peut tirer que dans le tableau des évolutions successives de l'esprit humain, écrivait Renan dans L'avenir de la science, en 1848, histoire philosophique donc plutôt qu'histoire de la philosophie. L'histoire telle que l'entend Renan campe d'emblée face à la psychologie, censée à l'époque prendre la relève de la vieille métaphysique. L'éloge du devenir contre l'étant, chanté par l'avenir de la science, trouve dans Averroès et l'avéroïsme son plein aboutissement. Je cite, « L'histoire est la forme nécessaire de la science de tout ce qui est soumis aux lois de la vie changeante et successive. La science des langues ?» C'est l'histoire des langues. La science des littératures et des philosophies, c'est l'histoire des littératures et des philosophies. La science de l'esprit humain, c'est de même l'histoire de l'esprit humain. Et non pas seulement l'analyse des rouages de l'âme individuelle. La psychologie n'envisage que l'individu et elle l'envisage d'une manière abstraite, absolue, comme un sujet permanent et toujours identique à lui-même. Aux yeux de la critique, en revanche, la conscience se fait dans l'humanité plutôt que dans l'individu. Elle a son histoire. Le grand progrès de la critique a été de substituer la catégorie du devenir à la catégorie de l'être, la conception du relatif à la conception de l'absolu, le mouvement à l'immobilité. C'est pourquoi il n'y a philosophiquement rien à attendre, ni des sémites, ni des médiévaux. S'ajoute à cela, à ce diagnostic, un élément particulier que reprendra de manière plus offensive la conférence de 1883 sur l'islamisme et la science. Ces mythes et médiévaux ne peuvent nous donner de leçons de philosophie car ils n'ont pas de philosophie propre. La philosophie chez les sémites n'a jamais été qu'un emprunt purement extérieur et sans grande fécondité, une imitation de la philosophie grecque, il en faut dire autant de la philosophie du Moyen-Âge. À défaut de solution au problème de la philosophie, le Moyen-Âge, comme toute période de décadence et de transmission, peut en revanche nous apporter des faits. Au contraire, si au lieu de demander des doctrines au passé, nous ne lui demandons que des faits, les époques de décadence et de syncrétisme, les périodes de transmission et d'altération lente auront plus d'intérêt que les périodes de perfection où la saillie originale du génie semble parfois s'effacer sous la perfection de la forme et l'exacte mesure de la pensée. L'histoire est le véritable objet de l'histoire de la philosophie. À ce point de vue de la science critique, ce qu'on recherche, dit Renan, dans l'histoire de la philosophie, c'est beaucoup moins de la philosophie proprement dite que de l'histoire. Qu'importe dès lors que la philosophie arabe ou que la philosophie du Moyen-Âge n'ait plus rien à faire avec nous. Elles sont riches de matière, ou comme le dit Renan, de faits expérimentaux pour une histoire du travail de l'esprit humain. Dernière citation et conclusion. Du moment où l'on admet que l'histoire de l'esprit humain est la plus grande réalité ouverte à nos investigations, toute recherche pour éclairer un coin du passé prend une signification et une valeur. Il est en un sens plus important de savoir ce que l'esprit humain a pensé sur un problème que d'avoir un avis sur ce problème. Car, lors même que la question est insoluble, le travail de l'esprit humain pour la résoudre constitue un fait expérimental qui a toujours son intérêt. Je conclus. L'histoire du travail intellectuel est le laboratoire de l'historien s'il veut s'imposer face aux psychologues dans le grand partenariat qui s'esquisse et que Renan appelle de ses voeux entre histoire, philologie, sciences religieuses et sciences positives.